J'ai l'immense bonheur ce matin de recevoir dans les studios de Radio Judaïka le Rav Yosef Hatoun. Rav Yosef Hatoun, bonjour.
Shalom.
Alors je dois vous faire un compliment, vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais moi je me rappelle très bien de vous lorsque j'étais lycéen à l'école Akiba et que vous veniez chaque année pour dispenser des shiurim. Et je dois vous dire que vous n'avez pas changé. On peut encore percevoir chez vous ce regard bleu perçant qui en dit beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Rav Hatoun, je vais vous présenter brièvement, vous le ferez beaucoup mieux que moi. En 1983, ça ne nous rajeunit pas, hein, c'est l'année de ma naissance, Rav Hatoun, vous avez créé la section française du Machon Meir, que vous avez dirigé pendant de nombreuses années, jusqu'en 2007. On sait ce qu'elle est devenue, vraiment une référence pour des centaines de jeunes francophones. Parallèlement, vous avez également développé plusieurs programmes d'études juives et d'intégration pour les jeunes filles au sein du Machon Ora. Vous êtes très connu pour être un spécialiste de la pensée de Manitou, et c'est notamment pour cela que l'on vous accueille à Strasbourg pour ce long week-end. La présentation d'un magnifique, passionnant documentaire, film sur la vie et la pensée de Manitou, et une série de cours au Merkaz qui a été suivie avec beaucoup d'attention par nos fidèles. Rav Yosef Hatoun, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de vous présenter et peut-être de nous dire comment votre parcours vous a amené à devenir un élève de Manitou.
Bon, d'abord, merci de vos mots très, très aimables qui ne correspondent pas de loin à mes modestes compétences, mais je me suis demandé à quel moment je vais me lever pour partir, parce que véritablement, je ne les mérite pas. En tout cas, pour répondre à votre question, c'est très simple. Je pense que j'ai été un pur produit d'une certaine... je sais pas comment dire, une certaine intelligentsia francophone, puisque j'ai fait mes études à Paris, à Nanterre, en sociologie, en psychologie, en sciences de l'éducation. Et c'est à peu près à cette période-là que, par l'intermédiaire de toutes sortes d'anciens amis des EI, j'ai connu quelqu'un qui a commencé à nous enseigner des enseignements que j'ai tout de suite rattachés à son maître, à lui, qui était Manitou. Et puis j'ai eu la chance ensuite de faire ce qu'on a appelé la promotion à l'école Gilbert Bloch d'Orsay. C'était dans les années 67-68, donc vous voyez que c'est entre la guerre des six jours, d'une part, qui m'avait sans aucun doute touché, atteint, mais j'avais à ce moment-là pas les cadres conceptuels pour savoir comment le caser, d'autant plus que tout de suite après sont venus les événements de mars, du 22 mars et de mai 68, et j'étais à Nanterre, je vous rappelle, de là où tout a commencé, j'étais très impliqué politiquement, etc., dans tout cela, jusqu'au moment où, à la fin de ces événements, quand De Gaulle réapparu sur les petits écrans, alors je suis tombé malade et je me suis dit c'est que je me suis trompé de révolution, et me sont revenus à ce moment-là tous les enseignements que j'ai entendus la même année de Manitou, le soir, en journée on étudiait à l'université, en soirée, le Shabbat, le dimanche, et petit à petit toute cette prise de conscience identitaire, puisque c'est le mot clé de l'enseignement de Manitou, eh bien tous ces enseignements identitaires sont remontés à la surface, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir et de faire ma Aliya en Israël, ce que j'ai fait d'ailleurs 2 ans plus tard, après avoir terminé une licence. Et depuis, eh bien, comme vous l'avez signalé, j'ai fondé d'abord et avant tout une famille. Aujourd'hui, j'ai 4 arrière-petits-enfants, mais je ne suis pas arrière-grand-père. Maintenant, comprenez ça comme vous voulez. Mais ils sont tous, Dieu merci, j'ai vraiment raté ma vocation, presque tous. Ils sont presque tous dans l'enseignement à différents niveaux, dans les yeshivot et dans ce qu'on appelle Mechina Kdam Tzvaït en Israël. Et Dieu merci, c'est le plus grand bonheur que l'on puisse connaître. Et puis, comme vous l'avez dit, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir, avec l'aide de beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi, dont vous connaissez peut-être Sylvia Marouani, qui est la sœur de feu le rabbin Sitruk, Zichro Livracha, eh bien, nous avons, pendant 40 ans, développé des programmes d'études à la Midreshet Arova pour les jeunes filles, etc., aujourd'hui au Machon Tal, et puis d'autres qui mériteront à d'autres occasions d'être mentionnés.
Alors, vous êtes venu à Strasbourg principalement pour nous parler d'un magnifique documentaire sur la vie de Manitou, sur sa vie, mais surtout sur la pensée qui a été la sienne, une pensée, là, qu'il faut le dire, contrairement à d'autres grands penseurs de son époque en France, a eu une portée absolument incroyable en Eretz Israël. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai, qu'il a su, de par le génie de sa pensée, de par son actualité permanente, eh bien, trouver un écho aussi auprès d'un public israélien, qui est un public qui a une culture différente de la culture française. Et cette pensée, eh bien, non seulement aujourd'hui, elle trouve, je veux dire, un écho grandissant, pas simplement auprès des populations d'un certain âge, mais même des jeunes population, et c'est, je pense, l'objectif, en tout cas un des objectifs finalement de ce documentaire, de montrer en quoi eh bien, la voix de Manitou peut continuer aujourd'hui à s'exprimer, continuer à résonner. Et je pense qu'il y a un intérêt tout à fait particulier à le présenter aussi auprès d'un public francophone. En tout cas, vous me permettrez d'avoir cette réflexion que si cette pensée est encore une pensée très présente chez un certain nombre de nos anciens, bien, chez nos jeunes, en tout cas en France, ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à la faire connaître, à la développer. Et ce documentaire y contribuera sans doute. En tout cas, voilà, j'aimerais que vous nous en disiez un mot.
Bon, je suis vraiment très, très heureux et très impressionné par votre façon de présenter les choses, parce que je pense que vous avez raison. C'est pas pour rien que Manitou a grandi, je parle pas... bien sûr seulement sur le plan personnel, mais sur le plan de sa pensée. Sa pensée a grandi et s'est développée véritablement au cœur du mouvement de jeunesse des EI, de façon générale des mouvements de jeunesse. Manitou était un scout dans l'âme, mais dans le sens le plus noble du mot, qui ressemble peut-être à ce que nous trouvons dans certains passages de la Bible concernant, je ne sais pas, par exemple, le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, dont on parlera d'ailleurs ce Shabbat un petit peu, puisque son Yahrzeit, c'est le Kafret Beiyar, justement le jour de Jérusalem, comme par hasard, et que lui sont dédiés une série de psaumes de David à la ville de Jérusalem, qui sont dédiés aux fils de Korach au pluriel, c'est-à-dire d'abord et avant tout à Shmuel Hanavi, au prophète Samuel. Eh bien, je crois que quand il était petit, le Tanakh nous dit une phrase tout à fait sibylline. Le Tanakh nous dit « Vehanar nar », une phrase intraduisible. Enfin, je ne sais pas comment la Bible du rabbinat le traduit exactement, mais littéralement, ça veut dire « le jeune homme était jeune homme ». Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Eh bien, vous vous rappelez de l'expression que l'on va dire ce soir dans les Chadodi, hitna'ari me'afar kumi, les hitna'er, ça veut dire se secouer, et peut-être aussi d'ailleurs secouer ce qui entoure et qui est déjà poussiéreux. Eh bien, si vous me permettez, je crois que Manitou, d'ailleurs le Manitou relativement jeune que j'ai connu au départ, comme le Manitou beaucoup plus âgé que mes élèves ont connu ensuite en Israël, eh bien Manitou était un na'ar de la pensée hébraïque, de la pensée juive, et il secoue tout ce qui n'est pas authentique dans cette pensée, rejoignant en cela, je crois, un enseignement, j'en ai parlé hier soir à la présentation du film, un enseignement de ses maîtres, peut-être son maître essentiel a posteriori, c'est-à-dire le Rav Kook, celui vers qui il est arrivé, pas celui d'où il est parti, et le Rav Kook, dans un texte merveilleux qu'on appelle Mahalach HaIdeot Beyisrael, le cheminement des idées au sens hébreu platonicien, du peuple d'Israël, eh bien, il dit que une des catastrophes, peut-être la catastrophe la principale de la descente du peuple d'Israël en exil, c'est que ce qu'il appelle ha-idea ha-elokit, l'idée divine, s'est réduite à une idée religieuse, ha-idea ha-datit. Et vous le savez, c'est un texte du Talmud qui dit kevan she galou l'onishar et la arba amot shel halacha, sont demeurés les quatre coudées de la halacha, qui bien entendu ont été extrêmement ont permis au peuple d'Israël de survivre, de subsister, mais qui est loin de l'identité culturelle profonde, authentique du peuple d'Israël, qui concerne aussi bien l'histoire de ce peuple avec tous ses avatars, aussi bien bien entendu la géographie d'Eretz Israël, et bien entendu au centre de cela une Torah qui est une Torah culturelle, au moins autant qu'une Torah religieuse. Eh bien, c'est toutes ces données-là qui ont malheureusement éclaté, implosé, lorsque le peuple d'Israël est descendu en exil. Et ce que nous sommes en train de faire, grâce à cet enseignement de Manitou et d'autres, et du Rav Kook, eh bien, c'est d'essayer de retrouver la synthèse de ces différentes données de l'identité d'Israël.
Alors, on le sait, une des particularités de Manitou, c'est qu'il n'a pas beaucoup écrit. On a dû vous poser cette question mille fois. Et donc son enseignement aujourd'hui, eh bien, on le tient principalement ou de ses élèves, ou heureusement d'un certain nombre d'enregistrements oraux que nous avons de ses enseignements. Mais par définition, eh bien, une pensée, on va dire, va beaucoup plus facilement circuler, imprégner certains milieux lorsqu'elle a laissé des traces écrites. Quelles sont pour vous aujourd'hui les principales armes qui peuvent permettre de transmettre efficacement cet enseignement sans bénéficier d'écrits?
Regardez, d'abord, un souvenir comme ça qui m'est venu en vous écoutant, lorsque Manitou a eu 70 ans, alors nous, enfin, tous les disciples, un peu la famille, la fondation Manitou, avons fait une grande manifestation à Jérusalem, au Binyané Aouma, et il y avait là-bas un public très 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 nombreux, de nombreuses centaines de personnes se sont réunies, et puis on a demandé, celui qui l'interviewait, a demandé à Manitou, mais enfin, pourquoi n'avez-vous pas écrit ? Et alors, on voit dans le film de cette manifestation, il sourit avec un sourire que nous connaissions bien, et il dit, écoutez, j'ai deux réponses. Premièrement, lorsque André Neher, Zichro Livracha, m'a posé la même question, je lui ai dit, mais je compte sur toi. Ça, c'était la première réponse, mais c'est une échappatoire, évidemment. La deuxième réponse, a-t-il dit à ce moment-là, c'est que j'ai pas le temps, mais ça aussi, c'est une échappatoire. Manitou était un perfectionniste absolu de la pensée hébraïque, et je crois, c'est une opinion personnelle, mais je pense qu'il faut comprendre ses réponses de la façon suivante, c'est que écrire demande une perfection totale. Une petite parenthèse d'ailleurs qui n'est pas liée, mais quand même, vous savez peut-être que le Rav Kook a écrit des milliers de pages, il n'y a pas une rature. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, je tiens à le signaler, parce que c'est impressionnant. Alors Manitou, lui, avait une perfection de la parole. Tous ceux qui l'ont connu ou entendu, il y a des enregistrements. Alors pour répondre à votre question directement, premièrement, il y a des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement qui sont d'ailleurs disponibles, surtout Manitou Académ ou bien autrement, sur notre site Manitou l'Hébreu, bien entendu, en un seul mot, Manitou. Tous les breux, vous pourrez vous y référer. Et puis, il y a aujourd'hui de plus en plus d'élèves ou de disciples, en particulier Chaim Rotenberg, qui fait un excellent travail, qui reprend tous ses enseignements oraux et non seulement les met par écrit et en style, mais surtout adjoint toutes sortes de références extrêmement précises et systématiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour rejoindre votre question précédente, l'avenir, les mouvements de jeunesse, l'avenir, Nahar, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, sont en train de se réveiller comme une traînée de poudre en Israël, comme vous l'aviez signalé, comme on le voit dans le film. Et je crois qu'il y a un fait ici peut-être unique en son genre, de quelqu'un qui avait une pensée tellement francophone, si on peut dire, puisqu'elle nous a touchés à un plus haut niveau de réflexion philosophique, de réflexion morale, mais en même temps, elle parle aujourd'hui justement à cette jeunesse israélienne qui est en mal d'identité et de retrouver une identité hébraïque, puisque vous connaissez cette phrase sibylline de Manitou, de juif, nous sommes redevenus hébreux grâce à la période du retour que nous sommes en train de vivre.
Alors je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu difficile. J'observais le public qui est venu nombreux pour suivre ce documentaire, qui correspondait en tout cas à mon sens à une certaine frange, on va dire intellectuelle, un petit peu de la communauté. C'est toujours le risque lorsqu'on parle de la pensée de Manitou, on peut penser qu'elle s'adresse exclusivement à un public d'initiés, un public intellectuel. Ma question est comment faire en sorte que cette pensée, on l'a dit, qui est vraiment une pensée géniale, une pensée extrêmement originale, une pensée puissante, puisse également toucher un public peut-être un petit peu moins versé dans l'étude, un petit peu moins initié. En quelque sorte, comment est-il possible de la vulgariser sans pour autant l'abîmer ?
C'est une très jolie question. J'aime beaucoup votre question et je crois que je voudrais faire un essai, si vous me permettez. J'ai sous les yeux trois lignes. Je sais que notre temps est limité maintenant. On se verra Shabbat à plusieurs reprises. J'ai pensé, Shabbat, développer ce que je vais lire maintenant d'un enseignement de Manitou. Vous me direz si c'est un enseignement intellectuel, fumeux, ou si cela touche véritablement le cœur identitaire de chacun et de chacune en Israël. Vous savez, au début de la paracha de Bechukotai, on va lire donc deux parachotes, vous l'avez certainement déjà enseigné, Behar Bechukotai. Alors au début, il est dit Im Bechukotai Telechu, si vous suivez mes préceptes et mes lois, alors Ve Italachti Betochechem, une expression très curieuse, je, dit Dieu, marcherai parmi vous. Je me promènerai parmi vous. Et Rashi dit, en citant le Sifri, le Midrash très ancien qui s'appelle le Sifri, Rashi nous dit « Etayel imachem began eden keichad mikem » c'est-à-dire « Je me promènerai avec vous » Manitou ne traduit pas au jardin d'Éden parce que ça les gens ne connaissent pas, ça fait un peu mystique. Alors regardez la traduction extraordinaire de Manitou. « Je me promènerai au milieu de vous dans un monde de plénitude, dans un monde de plénitude, et vous ne tremblerez pas de ma présence. » Vous ne tremblerez pas de ma présence, c'est là-dessus que Manitou, avec un, à mon avis un trait de génie, va nous dire, je lis ces mots, à travers cette simple note du commentaire de Rashi, se devine une extraordinaire familiarité avec l'absolu, qui fait la ferveur d'existence à laquelle la Torah nous invite. La promesse était bien à la mesure de l'effort demandé, un monde enfin normal. Ce n'est pas un rêve à la mesure d'enfant, c'est en vérité un monde à l'échelle de l'espérance de Dieu lui-même. Est-ce que ça parle à l'intellect ? Ça parle à l'intellect du cœur ou au cœur de l'intellect. Mais je crois que ce thème de la normalité, puisque nous n'allons pas trembler devant la présence même de Dieu parmi nous, Bekir Becha Kadosh, comme dit le verset, eh bien, cela signifie, traduit Manitou par un trait de génie, il traduit cela, que nous serons redevenus normaux. Normaux, c'est-à-dire capables de se mesurer panim el panim, face à face, avec le divin et l'absolu. Alors, jugez vous-même.
Voilà, en tout cas, je vous invite véritablement à voir ce documentaire pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous jeudi soir. Voilà, ça vaut le coup. Ce que j'ai particulièrement aussi apprécié, c'est le fait que ce document soit très équilibré, puisqu'on a plusieurs voix qui s'expriment parmi ses élèves, chacune bien sûr avec sa sensibilité, mais qu'on a aussi pu entendre d'autres voix, un peu plus discordantes finalement, notamment par rapport à à certains points de cette pensée et qui donne, on va dire, un tableau extrêmement complet de ce qu'a été Manitou, même s'il est très difficile à l'intérieur d'un documentaire d'une heure trente de pouvoir résumer toute la pensée et toute la personnalité du grand homme qu'a été, du grand rave qu'a été Léon Ashkenazi, Manitou. J'aimerais, Ravatoun, si vous le permettez, parce que le temps avance, qu'on puisse également évoquer d'autres sujets. Nous allons célébrer Yom Yerushalayim dans une semaine, Kafret Iyar. C'est une journée particulièrement importante, mais peut-être pas suffisamment installé, en tout cas, notamment en Galoute, en Chutz Laaretz. Voilà, on sait que Yom Hatzmaout est célébré par un certain nombre de communautés. Yom Yerushalayim est un jour qui est un peu plus délaissé. Peut-être nous dire un mot sur l'importance de cette journée.
Alors, j'aurai l'occasion de dire plus qu'un mot, bien entendu, et à Rambam ce soir, et à l'Office des Jeunes demain matin, et d'autres. Mais, si vous voulez, je crois que je vais dire la chose suivante. Le suffixe du mot « Yerushalayim », là aussi est quelque chose d'absolument unique, je crois. Il y a de nombreuses capitales dans le monde, de nombreux États, de nombreuses civilisations. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui a une désinence tout à fait curieuse, et je m'explique. Comment est-ce qu'on dit en hébreu les deux oreilles ? Alors, vous le savez, « Oznaim ». Seulement voilà, Oznaim, ça ne veut pas dire deux oreilles, ça veut dire une oreille double, parce que imaginez que deux oreilles, ça se dirait Oznim, mais si on avait deux oreilles, ce serait insupportable. Très calé l'omishtamé, on ne peut pas entendre deux voix différentes. Est-ce qu'on a deux yeux, Einaim ? Non, ce serait Einim, heureusement d'ailleurs, sinon on voit en relief une vision double, on ne pourrait pas voir deux visions, ça serait insupportable. Yerushalayim, eh bien c'est du même ordre. Le traité de Ta'anit, le Talmud de Ta'anit dit dans la bouche divine, je ne rentrerai dans la Jérusalem d'en haut que lorsque mes enfants seront rentrés dans la Jérusalem d'en bas. Jérusalem nous apprend que l'histoire d'Israël, la personnalité, l'identité d'Israël est une identité double. C'est une double, ça veut dire qu'il y a unité fondamentale entre les deux. C'est pas deux, c'est un double. C'est de cela que nous allons parler tout au long du Shabbat, à travers des enseignements de Manitou, mais surtout à travers, comment dire, l'aura, la lumière de Jérusalem, qui est ce qui nous permet de redécouvrir, après 2000 ans d'exil et de diasporisation du peuple d'Israël et de l'identité d'Israël, de retrouver l'unité, la synthèse de l'unité hébraïque.
Alors, si vous deviez résumer votre message à la communauté strasbourgeoise, voilà, en un mot, qu'est-ce que vous diriez ? On l'a dit, vous êtes là pour partager cette pensée de Manitou, mais vous venez aussi avec votre vécu, avec votre expérience, avec ce qui vous a conduit vous-même à décider un jour de faire vos bagages pour aller vous installer en Eretz Israël, et plus précisément d'ailleurs à Yerushalayim. C'est sans doute aussi pour cela que vous pouvez en parler aussi bien, parce que vous y vivez depuis un certain nombre d'années. Quel est le message que vous souhaitez aujourd'hui adresser à ces nombreux juifs qui vivent encore aujourd'hui en diaspora, dont certains se posent peut-être la question de savoir est-ce qu'il est temps de monter en Eretz Israël, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à faire ici, et comment est-ce que vous considérez, c'est peut-être une question un petit peu piège que je vous pose aujourd'hui, mais comment est-ce que vous considérez la communauté juive de diaspora, voilà, qui considère que, bien au fond, les conditions que lui offre aujourd'hui la diaspora lui permettent peut-être de vivre le judaïsme de manière plus confortable, et notamment, je pense à notre belle communauté strasbourgeoise, voilà, que cela ne pourrait être le cas en Eretz Israël. C'est une question volontairement piège que je vous pose, mais que sans doute un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs peuvent se poser.
Voilà, je suis persuadé que tous les auditeurs se la posent, je suis persuadé que tous les membres de la communauté de Strasbourg, et pas seulement quelques-uns, se demandent si leur place n'est pas en Eretz Israël, car nous avons attendu depuis si longtemps. Peut-on imaginer, vous savez, je me rappelle un épisode d'un de mes nombreux voyages quand je dirigeais le Machon Meir à Paris, et j'ai cité à ce moment-là un Shabbat après-midi dans l'atmosphère un peu pesante du quartier de Belleville, comme ça, j'ai cité ce texte d'un grand d'Israël qui s'appelait le Chesed l'Avraham, Rabbi Avraham Azoulay, kabbaliste, et qui écrit ni plus ni moins que la chose suivante. Lorsque la première nuit qu'un juif vient passer en Eretz Israël, et vous savez que la nuit, eh bien, la Neshama va se régénérer, Beyadcha Afkid Ruchi, eh bien, lorsqu'on se réveille au matin, on reçoit une nouvelle Neshama, celle qui nous attendait depuis toujours là-bas en Eretz Israël. Alors ce texte est magnifique, en plus, elle vient d'un kabbaliste qui sait exactement de quoi il parle, et ce n'est pas simplement une formule littéraire. Alors je dis cela, il y a quelques minutes de silence, imaginez, parce que le texte est tellement fort, et puis quand même quelqu'un, un jeune comme ça, lève la main et il dit « Rav, mais est-ce que c'est vrai aussi quand on vient comme tout touriste ?» Alors, j'ai fait comme si je me mettais très en colère et je lui ai dit, mais enfin, tu peux imaginer que Rabbi Avraham Azoulay a imaginé qu'on peut venir comme touriste en Israël. Je crois que Israël, c'est une affaire d'amour et je sais que les Juifs sont tous amoureux d'Eretz Israël. Seulement, il faut faire que l'amour platonique, celui qui ne se réalise jamais, comme celui qui rêve de la jeune fille parfaite et qui finalement reste célibataire, alors soyons de ceux qui ne font pas que rêver et qui viennent rejoindre l'effort important. Je crois qu'il est temps d'adresser une tefila, si vous me permettez, en tant que grand rabbin de la ville, nous devons nous unir pour cette période où nous sommes en guerre, car ça a l'air de rien quand on lit les alinéas des journaux, mais le pays d'Israël est en guerre, une guerre très malveillante, je ne sais pas comment dire, toute guerre est malveillante, mais une guerre qui est extrêmement difficile, qui demande énormément d'intelligence. Intelligence en anglais, ça veut dire le modine, comme on dit, le renseignement. Et je crois que nous devons adresser non seulement pour le recouvrement des blessés, etc., mais adresser une tefila de tout le peuple d'Israël. Vous me permettez encore une...
Avec plaisir.
Je viens de lire que, et c'est une interview authentique qui a été faite par un journaliste étranger à Gaza. Ils ont interviewé un des dirigeants du Hamas celui-là, à un moment de vérité, a dit qu'il ne comprend pas, enfin il comprend trop bien, à ses dires, pourquoi presque toutes, les roquettes qu'ils envoient sur Israël, par centaines, par milliers, n'atteignent pas leur but. Vous savez qu'il y a une très grande partie qui d'abord et avant tout retombe chez eux.
Il y a un cinquième, depuis le début de cette guerre, un cinquième voilà. Des roquettes.
Et puis, Dieu merci, même si par-ci, par-là, il y a malheureusement des dégâts. Eh bien, le journaliste étranger lui a demandé, mais comment vous expliquez cela? Vous n'êtes pas capable de faire des... vous avez le soutien iranien, etc. Alors, il a eu cette réaction incroyable, et c'est authentifié. Il a dit, non, mais nous, on envoie tout ce qu'on peut envoyer, mais le Dieu des Juifs, c'est lui qui détourne les missiles ou les roquettes. Alors, le journaliste étranger a continué à opposer une question. Il a dit, mais alors, pourquoi vous continuez? Alors, il a eu cette réaction que je laisse à votre appréciation. Il a dit, encore une fois, un dirigeant du Hamas, il a dit, mais non, on attend que le Dieu des Juifs se mette en colère contre eux.
Ça nous fait penser un petit peu à Bilam. Voilà, chacun se fera son idée de cette réaction et de cette interview. Voilà, peut-être terminant avec une fila pour Shlomo Amedina. Avinu shebashamayim tzur Israel vegoalo, barech et medinat Israel reshit tzmichat geulatenu, agen alea bevrat chazdecha ofros alea sukat shlomecha, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, את הכנם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישוע ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ואת אחינו כל בית ישראל, בקודנה בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם מהרה קוממיות לציון עיריך, ולירושלים משכן שמך. ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, וטיבך וירבך מאבותיך. ויחד לבבנו לאהבה להירא את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לבדות מחקקץ ישועתך. הופה באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלה.
אמן.
רב אתון, מרסי בוקו.